Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Franck Durand. Il est directeur artistique et il est le fondateur d'Atelier Franck Durand. Dans cet épisode, on revient sur son parcours, sur son métier d'aujourd'hui et comment il a évolué. Il nous explique son processus créatif et ce qui fait qu'une campagne est réussie. On parle de l'épopée Holiday, de sa vision qu'il a pour ce projet et on aborde beaucoup d'autres sujets. J'ai adoré interviewer Franck, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Franck Durand de Atelier Franck Durand. Bonjour Franck.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Waouh.
Ouais, c'est hyper désagréable comme question.
Ouais, la première elle est
toujours frontale, ouais.
Ouais, on va commencer par quoi vraiment?
Enfin, je m'appelle
c'est vrai.
Franck. Non, mais ouais. Après la deuxième question, elle est peut-être plus simple, c'est de dire est-ce que tu peux reprendre ton parcours, savoir d'où tu viens? Moi, j'aime bien savoir d'où viennent les gens, où est-ce qu'ils ont grandi, comment ils sont arrivés à où ils en sont aujourd'hui, en fait. D'accord. En passant par tes études supérieures, si tu en as fait ou pas.
Non.
Ben voilà, ça va être très rapide alors.
Ça va être très fine, ouais. Ouais, le parcours, le début, je pense qu'effectivement, j'imagine que c'est important pour tout le monde, d'où on vient, ce qu'on est. Donc, j'ai l'impression effectivement que d'où je viens. A beaucoup joué sur
qui tu es aujourd'hui.
Ouais, ce que je fais aujourd'hui. Donc je suis un garçon de la campagne. Voilà, vraiment, je suis Tourangeau.
D'accord. C'est où ça? Tourangeau.
Tourangeau, c'est en Indre-et-Loire. Enfin, j'ai partagé. J'étais entre l'Indre-et-Loire et la Sarthe, entre mes deux parties de ma famille. Mais oui, c'est. D'un côté les vignes et de l'autre côté les vaches.
D'accord.
Donc ça voilà, ça joue un peu. École, beaucoup de pensions.
Beaucoup de pensions.
Internat.
Ouais. D'accord.
Catholique, donc c'est aussi pas. Ça compte aussi dans mon. Je pense aussi dans mon approche des choses encore aujourd'hui.
C'est vrai que c'était compliqué la pension, c'était
je pense que j'ai dû jouer au fait que c'était compliqué, mais en fait ça l'était pas tant que ça. C'était compliqué et c'était sympathique que ce soit compliqué.
Ouais.
Voilà. Mais je garde effectivement des souvenirs de prof un pensionnat catholique, donc du coup
On imagine bien à quoi ça peut ressembler. Ouais.
Ouais.
Ah, c'est pas très funky, quoi. Ouais. Enfin,
non,
après, peut-être beaucoup de bêtises, non? Beaucoup de fraternité entre les élèves.
Non, ouais. Mais quand même, avec le recul, est resté quand même un certain nombre de valeurs qui sont en contraste avec ce que je peux vivre depuis que maintenant que je suis. Voilà, ça fait longtemps que je suis à Paris et tout ça, mais ça reste souvent, confrontation entre mon éducation et ce que je vis au quotidien et tout ça. Donc j'ai pas un sens moral, mais on m'a quand même inculqué quand même un certain nombre de
valeurs.
De valeurs.
Ouais.
De partage, c'est con, hein, mais c'est de partage, de un rapport à l'argent aussi qui est aussi très différent, le rapport, un certain nombre de choses. Et puis le côté provincial aussi, je me souviens quand je suis arrivé assez jeune à Paris, un truc que je me suis rappelé il n'y a pas si longtemps où j'avais tendance à dire bonjour un peu facilement à tout le monde.
Ouais, c'est vrai ça.
donc c'est des trucs comme ça.
Ouais, de provincial.
Ouais.
Ouais, mais je vois dans ma famille, et moi-même, je suis étant provincial et ayant des parents qui sont stéphanois en plus, ils ont tendance à dire bonjour à tout le monde et à parler à tout le monde dans les commerces quand ils sont à Paris, ils sont assez drôles, et même dans le métro.
Ouais, ouais. Alors après, j'en ai pas honte voire l'inverse.
Ouais, c'est une fierté carrément.
Ouais.
D'accord. Et donc après ce pensionnat, qu'est-ce que, comment tu es arrivé, enfin qu'est-ce qui s'est passé derrière?
En fait, je raconte souvent l'histoire du fait où j'avais un copain en pension qui était parti, je sais pas, peut-être en quatrième ou troisième à Londres, et il était revenu avec des magazines qui ont été, je pense, le
déclencheur
de ma réflexion et de. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, je voulais être ingénieur des eaux et forêts. J'étais fou de la nature et, enfin, pendant très longtemps, je pense que je voulais vraiment être faire quelque chose autour de la nature et voilà. Et en fait, ce copain est revenu avec des magazines de Londres. Bon, c'était ID, The Face. Ouais, je crois que ça m'a fait une sorte d'électrochoc. Enfin, un truc un peu. Effectivement, le fait d'être en pension, d'être, moi, je venais de temps en temps avec mes parents à Paris pour, et à chaque fois, c'était pour des expositions. Donc, j'adorais Paris, mais focalisé sur les musées et voilà, l'exposition à voir. Et puis après, je rentrais dans ma province. Et là, ouais, effectivement, ce magazine-là m'ont fait percevoir plein de choses, la mode, l'image, le fait qu'il y avait peut-être un monde vraiment différent ailleurs. Enfin, j'avais pas du tout encore
perçu ce truc.
Perçu ça. Je pense que c'était lié à l'âge et puis voilà.
Et ça, c'était dans les années quoi?
C'est dans les années peut-être fin des années 80. Voilà, je suis arrivé au début des années 90 du coup à Paris. Donc voilà.
D'accord. Donc là, les magazines, il arrive avec ses magazines, c'est l'électrochoc, et tu te dis, c'est ça que je veux faire, c'est...
Non, mais d'un seul coup, effectivement, il y a d'un seul coup, autre chose qui arrive dans mon champ de vision. Je pense qu'après, je suis parti à Londres, j'ai petit à petit, je me suis un peu mis à regarder ça de façon plus
avec beaucoup
précise.
Plus d'intérêt.
Ouais.
Et donc là, donc tu pars à Londres.
À l'époque c'est surtout des voyages ou de vacances ou des choses comme ça. Mais voilà, j'ai passé des vacances. D'ailleurs avec ce copain et un autre copain, on était parti découvrir un peu Londres. Londres à cette époque-là, c'était pas les années punk, hein, c'était une décennie avant, mais c'était vraiment, c'était très intéressant. Pas du tout Londres. Enfin, aujourd'hui, on peut aimer Londres comme il est aujourd'hui, mais
c'était autre chose.
Ouais,
carrément. Ouais. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie?
Bon, après, à un moment donné, j'ai su un peu plus précisément, il y avait un certain nombre de choses qui me plaisaient. Quand je suis arrivé, du coup, après, je crois que je suis passé des musées à certaines rues de Paris. À l'époque, j'étais obsédé par la rue Étienne Marcel, parce qu'il y avait comme des garçons et Yoji Yamamoto. C'est ce qui m'a un peu, vraiment, à cette époque-là où j'ai commencé vraiment à préciser un peu ce que je voulais faire. C'était un lien très fort à l'image.
Ouais.
Et derrière tout ça, il y avait une personne qui s'appelle Marc Ascoli, qui s'appelle toujours Marc Ascoli, qui travaillait à l'époque, entre autres, pour Yoji Yamamoto, avec des images de Nick Knight, avec des travails de Peter Saville.
Ouais.
Voilà, je me suis un peu focalisé là-dessus. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait plein de petits trucs. Voilà, et puis très vite, je suis arrivé stagiaire, puis après assistant pour Marc Ascoli.
Donc là, tu avais quoi, 20 ans?
Oui.
T'as 20 ans, t'arrives à Paris, tu fais deux, trois petites choses. Et
oui,
tu...
plein de petites merdes, oui.
Genre, mais quoi, des
plein
jobs,
de choses. Non, mais alors après, c'est vrai que pendant la vingtaine, j'ai fait beaucoup Marc Ascoli, et après, j'ai fait plein de choses autour de...
Toujours de l'image, de la direction artistique, etc., pour plein de créateurs.
Non, en fait, au début, Marc m'a beaucoup, m'a formé. Je pense que j'ai une structure qui est... aujourd'hui, je travaille vraiment. C'est que ça reste très lié à ma formation chez
Marc. Ouais.
Chez Marc, en opposition et en adéquation avec son travail. Enfin, voilà, c'est très lié à cette période-là.
Comment s'est fait cette rencontre avec Marc, d'ailleurs? Comment t'es rentré?
En fait, c'était juste avant. Je travaillais. J'avais fait un. Je remplaçais quelqu'un casting au L. Et je bossais pour Odile Sarron.
D'accord.
Donc c'est une personne qui est très connue dans le milieu et qui était voilà aussi très très bonne dans son domaine. Et donc c'est une personne qui travaille dans une agence de mannequins qui m'a recommandé auprès de Marc. On s'est rencontrés et voilà.
Et ça a fité.
Oui. Moi j'étais tellement content. Que c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'aujourd'hui je vois même les gens qui peuvent se présenter une personne qui a 20 ans aujourd'hui est beaucoup plus structurée que j'imagine moi quand j'avais 20 ans le fait de travailler j'étais et pour une personne que j'admirais j'étais déjà ultra content. Aujourd'hui, tout est structuré. Enfin, il y a voilà des conditions de travail, machin, etc. C'était marrant, voilà.
Ouais, c'est notre époque.
Ouais.
C'est vrai qu'on a vachement évolué par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait un truc peut-être voilà. Moi, je veux que mon podcast soit assez, enfin, le plus pédagogique possible. Ça veut dire quoi faire de la direction artistique?
C'est une bonne question parce qu'en fait, c'est un terme techniquement que je trouve pour ce que je fais très légitime pour ma. On va dire de façon très égocentrée pour ma personne, il contient deux termes qui me conviennent. Il y a direction, donc c'est le fait de diriger. Alors je dois dire que c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange pas, que j'aime. Et artistique, voilà, c'est aussi un terme qui, avec le premier, voilà, ça correspond exactement à ce que j'ai l'impression de faire et d'aimer faire. Maintenant, aujourd'hui, le terme direction artistique, c'est un terme très, qui, voilà, tout le monde est directeur artistique. Donc c'est vrai que c'est d'un seul coup, c'est un peu
le côté.
Oui, je pense. Enfin, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas un terme qui me définit spécifiquement parce que, tout le monde est directeur artistique, donc voilà.
D'accord. Et donc, alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Si, c'est peut-être plus précis comme question.
Ouais. Ça a beaucoup, je pense que j'ai beaucoup aussi évolué, aussi rebondi, analysé au fur et à mesure ce que je fais.
Peut-être poser la question différemment. Qu'est-ce que c'était quand tu as commencé direction artistique et qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? En sachant qu'aujourd'hui ça a perdu un petit peu de son sens, que c'est un peu un fourre-tout. C'est vrai que c'est un terme à tiroir. Et peut-être après, on passera à ce que tu fais vraiment aujourd'hui et comment tu conçois ton travail aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'était avant directeur artistique, à l'époque où tu as commencé avec Marc?
C'est assez complexe, parce que même Marc, lui, avait un peu déjà changé la formule. Lui, il venait de la presse. Il était attaché de presse chez Yoji. Et puis là, il a apporté... une approche différente sur un défilé, sur un casting. Ça paraît bizarre, mais les défilés, c'était vraiment la presse et les défilés, c'était deux choses, deux mondes qui étaient très distincts. Il a des choses qui paraissent toutes bêtes, mais des mannequins d'édito sur un défilé à l'époque ça ne faisait pas, et l'image, c'est vrai, avec le mouvement des Japonais à Paris et tout ça, ça a été très fort, donc c'était déjà un peu différent, mais en tous les cas le rythme c'était clairement pas le même. Si on faisait trois campagnes dans une saison, c'était déjà extraordinaire. Enfin, aujourd'hui, quand on voit le rythme d'aujourd'hui et le rythme quand j'ai commencé, alors là, oui, vraiment, on n'est plus du tout dans le même monde.
Et qu'est-ce que ça a changé, d'ailleurs, dans l'approche? T'es obligé d'être beaucoup plus structuré. T'as besoin d'avoir une team beaucoup plus grande, ou tu choisis moins de projets, tu refuses beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça a changé dans le métier d'art direction?
Je sais pas. Alors c'est vrai qu'après moi je me suis beaucoup. Je pense qu'à un moment donné, si j'ai un truc assez idiot, mais je pense que je suis quand même parce qu'à l'époque, j'ai jamais considéré. J'ai jamais voulu travailler, par exemple, dans le sens avoir des contraintes. Je bosse vraiment comme un fou. Mais j'aime pas ce sentiment de pas apprécier, de pas aller le matin à un endroit où et ne pas être content. Enfin, je me dis si d'un seul coup t'arrives au bureau et que c'est déjà une plaie, que t'attends que de sortir enfin voilà, donc ça,
c'est horrible.
Ça, c'est horrible. Ouais. C'était quoi
qu'est-ce que ça a changé, cette accélération du temps et
ouais,
des
non
et des
en
des
fait
campagnes.
Oui, effectivement. Alors en fait c'est qu'en fait l'idée c'est que ça aurait dû simplifier un certain nombre de choses, mais en fait plus on a des moyens pour aller vite, en fait on les utilise pour faire d'autres choses, et moi j'ai l'impression d'être quand même assez j'ai un appétit sans fin de faire des choses, ça m'a finalement quand même permis de regarder et d'appréhender plein d'autres choses, de faire ce que j'aimais et appris à faire au début, ouais. Et après développer. Après il y a aussi beaucoup, enfin je travaille beaucoup à l'instinct, il y a beaucoup de choses, je suis assez content de temps en temps où je vois des gens qui ont des analyses, etc. Et justement, j'ai pas fait d'études, moi, donc j'ai surdéveloppé la partie sensitive des choses, enfin, le côté un peu instinctif. Voilà, donc j'ai quand même rebondi, j'ai l'impression d'avoir rebondi sur plein d'autres territoire. Aujourd'hui, je fais pas qu'une campagne pour une maison. Petit à petit, je me suis aperçu que, enfin, faire une campagne, si elle est pas dans un contexte global qui fonctionne, c'est de l'énergie
dilapidée. Ouais.
Dilapidée, c'est de l'argent mis à la poubelle, c'est plein de choses. Donc petit à petit, j'ai essayé de quand même d'avoir un travail plus global sur et bon, et aujourd'hui c'est vrai que je préfère travailler sur une maison où je peux avoir un avis sur les boutiques, sur l'ensemble
des variables, ouais. Enfin des aspects de la marque, ouais, ouais. De la maison. Ouais. D'accord. Alors raconte-nous un peu comment tu travailles. Moi, une question que j'aime bien poser à mes interviewés, c'est à chaque fois qu'ils ont un nouveau projet qui arrive, une nouvelle maison qui vient les voir pour une direction artistique dans ton cas, par quoi tu commences? C'est quoi le processus? Comment t'abordes chaque sujet et comment ça évolue dans le temps?
Alors pour moi, c'est vraiment la partie la plus importante. Déjà, il y a quand même dans un premier temps, après, ça peut être presque comme une forme de thérapie ou au moins d'analyse de la personne que j'ai en face, ouais. Et de savoir très rapidement, de toute façon, on sait pourquoi les gens vous ont contacté, si c'est pour les bonnes raisons, pour les mauvaises raisons, si c'est encore jouable, si c'est trop tard, parce que souvent les gens peuvent appeler parce que ça va pas forcément, et ça c'est une partie que j'aime bien, mais après il y a des gens qui... J'ai toujours fait la séparation vraiment entre les gens qui veulent et ceux qui aimeraient. Voilà, il y a des gens qui sont prêts à écouter, puis il y a des gens qui aimeraient avoir tout sans passer par la case revoir les choses,
introspection,
remettre les choses à plat voilà.
D'accord.
Donc il y a cette partie-là. Alors après la deuxième partie qui est quand même importante, c'est après c'est pareil, je pense que chaque maison, bien ou pas bien, a sa caractéristique, et ça c'est hyper important. Et après je pense que c'est parce que essayer de d'être comme le voisin ou d'avoir le succès du voisin, ou oui, pourquoi pas, mais l'important c'est de distinguer de l'autre. Mmh. Donc c'est essayer de trouver réellement ce qui fait la distinction de la maison, de la marque. Mmh.
D'accord.
Commencer par là. Donc, une sorte de nettoyage aussi,
d'aller à l'essentiel,
d'aller à l'essentiel.
Ouais. Mais ça demande un travail introspectif énorme quand t'as un créateur, je sais pas, t'as travaillé pour Anthony Vaccarello, mais ou des gens comme ça dans ce cas de figure là, quand la marque c'est eux, etc. Ça demande un gros travail introspectif et savoir qui ils sont. Mais en général, ils savent vraiment ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, ou tu vas vraiment les aider à accoucher de tout ça.
Non, l'idée c'est effectivement de pas se, c'est de pas se perdre, d'essayer de, voilà, de, et puis souvent c'est bien d'avoir, je pense que la communication elle est hyper importante, ne serait-ce pour rappeler qui tu es et pas forcément se partir dans tous les sens. Je pense qu'il y a, après il y a un sujet qui est important quand même aussi dans notre métier, c'est que le cerveau, tout va très vite, on a des rythmes hyper accélérés, on se lasse potentiellement aussi assez rapidement des choses. Après, je me dis toujours que notre rythme et c'est notre rythme, c'est pas le rythme du monde, et donc c'est bien aussi de ne pas avoir peur de répéter les choses, de marquer les choses, d'aller et de continuer à marteler une piste,
une croyance.
C'est pas la peine d'aller dans tous les sens et je pense pas.
D'accord. Donc ta façon de travailler, donc tu te poses avec eux, il y a un moment d'introspection, savoir qui ils sont, épurer le truc pour trouver l'ADN ce qui fait la différenciation entre toi et les autres. Et après, quand tu travailles sur une série, moi ce qui m'impressionne toujours, c'est que c'est quelque chose qui est assez impalpable et assez instinctif. Et je pense que c'est toujours très difficile pour les gens qui ne sont pas dans la mode, dans l'art, dans la direction artistique, de comprendre comment ça fonctionne dans ta tête.
Ah oui, mais c'est vrai que ça, c'est. Mais après, je vois souvent. Par exemple, pour faire une campagne, on a besoin de présenter un mood board. C'est souvent l'aspect le plus
palpable, ouais.
Ce que les gens ont l'habitude d'avoir et tout ça. Sincèrement, et souvent après, quand je suis assez confiant et à l'aise avec les gens avec qui je travaille, sincèrement, un mood board pour moi, je m'en fous à un point, c'est tellement pas important. C'est important pour rassurer le client, mais ce qui est important, c'est un peu. Oui, en fait, ça aide quand même, mais il peut se passer tellement de choses le jour du shooting, tellement de choses qu'on peut ne pas prévoir, des choses, et c'est l'aspect créatif. Je pense que déjà il y a un contexte, ça je pense que le mood board peut aider, et puis aussi un peu anticiper une équipe, un mannequin, un photographe, un studio, un extérieur, donc ça, c'est effectivement ça cadre un peu, mais après il y a plein de choses qui se passent et il y a beaucoup de quand même encore beaucoup de gens qui, malgré tout, même dans la mode, qui ont besoin de d'avoir du palpable. Ah bon, alors sur le mood board, est-ce que ça on va le faire, ça, est-ce que mais moi techniquement après je j'aime le moment où je suis avec un photographe, avec un mannequin, avec un styliste.
C'est la magie du moment, quoi.
Et presque on peut faire des photos fabuleuses tellement n'importe où, quoi.
Mais qu'est-ce qui est important dans une campagne? C'est qu'est-ce qui fait qu'une campagne réussit?
Alors, en tous les cas, moi, ce que mon obsession, j'aime quand l'effet ne se voit pas, en fait. Tout ce qui est trop poussé, tout ce qui est trop, ça me pose un problème. Donc,
quand c'est trop direct et quand c'est trop téléphoné, c'est ça?
Euh, Oui, quand il y a trop d'effets. Quand il y a trop d'effets, c'est vrai que ça me c'est
crispant.
C'est clairement pas mon approche des choses. J'aime les choses harmonieuses, j'aime le luxe discret. Je déteste le clinquant, je déteste l'ostentatoire. C'est vrai que c'est je pense qu'avec le temps, c'est ce qui un peu aussi caractérise un peu ce que je fais à l'atelier, quoi. Mm-hmm.
Et comment on construit d'ailleurs justement cette patte, ce langage, ce lexique, quand on a grandi auprès d'un Marc Ascoli qui a aussi sa patte? Comment on arrive à se construire chez les autres, en fait, et comment on arrive à développer son propre langage?
Justement, en acceptant ce qu'on ressent, ce qu'on aime. Par exemple, quand j'étais petit, quand j'étais chez Ascoli, m'avait fait une réflexion une fois, en me disant, mais toi, t'es vraiment très classique. À l'époque, c'était super, je l'avais mal pris. Je suis trop classique pour. Et avec le temps, je me dis, j'ai une approche un peu. Je suis absolument pas. J'aime l'image. Les choses qui se corrigent, qui s'améliorent, qui se restaurent, qui se développent. Mais en soi, je pense avoir une connaissance assez aiguisée de la mode. Mais en même temps, ça ne m'obsède pas. C'est-à-dire que je suis pas, je suis pas obsédé par le mouvement pour être dans un mouvement ou être dans un j'ai un recul par rapport à ça et donc je sais ce qui se passe, mais après je prends mes distances quand même par rapport à tout ça et j'ai une autre
comment on le trouve ça Surtout à une époque où il y a plein de questions qui me viennent, mais comment tu te nourris déjà? Comment tu te nourris? Comment tu restes au fait de ce qui se passe dans la mode sans être alpagué par le truc et sans être il faut arriver à ignorer le truc, parce que toi tu as trouvé ta patte, ton langage, tu traces ton sillon, mais tu regardes quand même ce qui se passe à côté. Comment tu fais pour ne pas être trop pris par ce qui se passe, par ce bruit?
Ça c'est un vrai sujet, et c'est aussi quelque chose que j'ai aiguisé, parce que j'ai une réflexion. Alors après, entre ce que je dis et ce que je pense, il y a aussi beaucoup de choses. Par exemple, du matin au soir, c'est un peu bête de dire ça, mais où que j'aille, quoi que je puisse voir toute la journée, je passe mon temps à transformer les choses virtuellement. C'est-à-dire que chaque seconde, chaque fraction de seconde, je développe un visuel. Donc, alors après, ça revient dans l'état du cerveau et tout ça, et ça reprend sa place. Mais il y a aussi, je pense que c'est aussi j'ai aiguisé ça aussi avec le temps. Par rapport à la mode, je devrais pas dire ça, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne consomme plus de magazines et que j'essaye maintenant. Justement, au début, c'était vraiment parce qu'il y avait une vraie consommation. Je consommais beaucoup de magazines et il y avait une consommation d'images assez. Et à un moment donné, c'est vrai que quand j'ai vraiment commencé à vraiment travailler aussi pour le et avoir une réflexion sur ce qu'était une image aujourd'hui, je me suis détaché de ça volontairement pour éviter d'être pollué. Aujourd'hui, il y a aussi, enfin, il y a toujours des accès, et aujourd'hui, il y a beaucoup Instagram qui peut être dangereux aussi en termes de consommation d'images. Je consomme, j'essaye aussi d'avoir aussi un recul à l'atelier. J'essaye aussi de, avec les gens avec qui je travaille, de leur demander d'aller chercher, d'aller puiser leur recherche d'images ailleurs que, enfin, que voilà, que sur les flux d'aujourd'hui, quoi. Donc, mais je pense que je pourrais j'aime bien travailler avec ce que j'ai au là. Pas, enfin, par exemple, je pourrais travailler avec j'ai pas besoin de ce que je n'ai pas. Je travaille avec ce que je peux avoir ou ce que j'ai. Et la création, je pense que j'ai l'impression que même quand j'étais, mettons, à la campagne, il y avait un process de créatif, enfin, que j'avais développé finalement. Donc je suis pas sûr que être forcément dans le flux créatif nourrisse, voire pour moi, je l'essaye de le contourner justement pour ne pas être trop influencé ou intoxiqué ou voilà. Donc essayer de tenir sa barre. Le process, il est le même, comme je disais tout à l'heure avec les maisons. Je pense que c'est bien de savoir ce qu'il y a autour. L'idée, c'est pas d'avoir des œillères. Maintenant, c'est bien aussi d'avoir gardé une distance. Et puis, c'est bien aussi de proposer quelque chose, aussi d'essayer de proposer quelque chose d'alternatif. Une alternative aussi, donc voilà.
Quel est ton point de vue justement par rapport à ça et la place de l'image dans notre société, ces images qui ont une durée de vie de maintenant quelques secondes sur Instagram, comment tu vois les choses évoluer? Tu penses qu'on va arriver à une overdose de ça et qu'on va revenir à du temps long où la machine est engagée?
Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pour ça que je travaille sur d'autres supports que l'image. C'est vrai que par exemple, aujourd'hui, j'ai développé une sorte de je sais pas comment on appelle ça, mais je fais la direction artistique d'architecture pour des espaces, des boutiques, un hôtel, une plage, des choses comme ça. Je travaille aussi sur l'idée du village boileau. C'est un sujet qui me passionne aussi. Déjà, c'est pas du court terme, c'est pas du moyen terme, c'est du long terme. Et c'est très agréable aussi de travailler sur quelque chose qui n'est pas amené à exister demain et disparaître après-demain. C'est un truc sur du long terme, c'est une autre. Ça, mentalement, c'est aussi agréable. Moi, par exemple, là, cette semaine, je travaillais encore avec un photographe de nature morte et je voyais à quel point j'apprécie. Enfin, c'était encore très agréable d'aller lentement. Enfin, je pense que j'arrive encore à apprécier l'image. Je me rends pas compte, effectivement, la nouvelle génération. Si je pense. Je suis pas très très clair par rapport à ça. Il y a une sorte de surconsommation. J'arrive pas réellement à analyser si une personne de 20 ans peut apprécier une image plus qu'une fraction de seconde. Il faut espérer, quand même. Mais je pense qu'aussi, il faut aussi proposer aussi ça, à nous, probablement, enfin, qui seraient dans l'image, d'essayer aussi de réellement proposer quelque chose aussi d'autre. Mm. Pour l'instant, effectivement, il y a cette frénésie de l'image voilà, qui a un temps de vie de rien. Mm. Bon, il faudra trouver d'autres moyens pour quand même, parce que c'est une vraie satisfaction d'apprécier une image. Mm. Voilà. Donc,
j'aimerais bien qu'on parle aussi de. Enfin, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est comment on calcule le retour sur investissement d'une campagne, d'une image. Je suis pas sûr que les gens se rendent compte de l'importance de l'image d'une campagne et dans quelle mesure ça fait le succès d'une marque. J'en suis persuadé que ça fait le succès d'une marque, une belle campagne. En tout cas, ça y contribue fortement. Comment tu l'expliques quand tu es quelqu'un qui vient te voir et qui n'a pas forcément compris ça? Ou comment tu calcules le retour sur investissement d'une campagne?
Ouais, bah c'est une très bonne question. C'est très complexe parce que ça reste malgré tout. Alors après, c'est du pragmatisme. Hein. Si c'était pas efficace, on mettrait pas autant d'argent encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est très monétisé tout ce qu'on fait. Il y a une époque où les gens, les créateurs ou les couturiers ou faisaient des vêtements. Puis il y avait un circuit assez assez court, il n'y avait pas de. Maintenant, on met beaucoup d'argent et on attend des retours financiers très probants. Il faut qu'il y ait. Mais oui, si c'était pas efficace, on mettrait pas autant d'argent dedans. Alors moi, c'est vrai que c'est étonnant parce que de temps en temps, j'ai quand même des. J'essaye d'avoir des retours sur. C'est souvent étonnant avec très peu de choses, très peu d'éléments, une intervention assez légère où d'un seul coup il y a et c'est très agréable dans mon c'est aussi ce qui me plaît aussi dans ce que je fais, dans l'approche que j'ai dans mon métier, c'est qu'effectivement je suis quand même très attaché à l'image. J'essaye le plus possible de quand même de diriger les gens avec qui je travaille sur une voie, pas sur une voie de facilité. C'est pour ça que mon travail est pas toujours facile, parce que j'essaye de quand même de pousser les gens sur une qualité, mais justement une qualité qui soit pas ostentatoire. Mmh. Donc c'est là où l'élément est un peu compliqué. Aujourd'hui, j'aime aussi, depuis longtemps, j'aime aussi avoir l'aspect économique des choses, parce que je pense que ça sert à rien de faire quelque chose de très fort, très beau, mais qui n'est connecté à personne ou à très peu. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de réussir à toucher les gens et essayer de les amener vers quelque chose d'un peu plus subtil. Mmh. Donc oui, quand il y a un aspect, quand j'ai des retours, et là, je l'ai souvent, quand même, le retour où avec des corrections minimes ou qui semblent être minimes, d'un seul coup, le message passe et qu'économiquement, ça se met en place. Voilà, ça c'est toujours la grande satisfaction de de mon travail quand j'arrive à ça.
J'aimerais bien qu'on parle un peu plus spécifiquement de l'épopée Holiday. Comment ça s'est fait, parce que ça c'est vraiment une aventure entrepreneuriale dans l'aventure entrepreneuriale finalement. Comment ça t'est arrivé cette idée de racheter ce magazine et d'en faire tout ce que t'es en train de faire?
En fait,
quoi la genèse?
Bon, il y avait un certain nombre de magazines historiques que j'aime, dont Holiday. Holiday pour plein de raisons. Enfin, il y a déjà des ça représente des éléments. En fait, ça représente. J'ai pas créé Holiday. C'est un magazine qui date des années 40. Qui est né à Philadelphie et le projet c'était l'après-guerre et c'est de proposer de montrer le monde sous un aspect très hédoniste. Après, dans les années 50-60, il y a eu vraiment pour moi les années les plus fabuleuses dans le magazine, et en termes de maquettes, en termes de propositions de photographes et d'écrivains. Enfin, c'est probablement le plus beau magazine au monde. Quand je l'ai racheté, il y a peut-être moins de 10 ans, mais bon, voilà. Après, maintenant ça fait 5 ans, donc ça fait 10e numéro. Là, on travaille sur le 11e numéro. J'étais surpris parce qu'en fait, même dans notre milieu, il y avait finalement très peu de gens qui savaient ce qu'était Holiday. Peut-être parce que c'est pas un magazine de mode, donc c'était vraiment un magazine. Mais les gens qui connaissent Slim Aaron et tout ça, finalement, la plupart des photos de Slim Aaron viennent d'Holiday, sont parues dans le Holiday. Mais il y en a plein, d'autres. Donc en fait c'est le Holiday. Je me suis lancé en sachant pertinemment que c'était en quelque sorte très désuet de lancer un magazine aujourd'hui, surtout la forme dans laquelle je voulais la faire. Je me suis pas du tout posé. J'avais encore une fois, je savais pertinemment ce qu'était la presse aujourd'hui et ce qu'elle allait devenir, avec une intuition quand même que si c'était un objet aussi, ça pouvait peut-être ne pas être totalement absorbé par le digital. Je pense que le pari est plutôt réussi à ce sujet. J'ai suivi ce qu'était Holiday à l'origine. J'ai l'impression d'être un passeur avec ce sujet, parce que je n'ai fait que le faire renaître. Mais sans changer
l'ADN
du départ. J'ai rajouté beaucoup plus de, j'ai rajouté du style plus que de la mode, mais on a rajouté quand même de la mode pour le faire vivre. C'est quand même grâce aux annonceurs qu'on peut le produire. Donc on l'a lancé. Après, c'est un magazine de lifestyle, donc c'est vrai que c'était après Man About Town. On avait travaillé sur quelques numéros d'un magazine masculin. Oui. Le magazine, ça a toujours été quelque chose que j'aurais pu envisager, mais je suis pas sûr que bon, le Man Barton est arrivé et j'ai pris vraiment, enfin, ça a été très agréable à faire. Donc après, bon voilà, ça a été assez logique de, même si au début, je me souviens de toutes les conversations sur le format, sur le pourquoi un magazine, sur, pour, enfin tout, enfin j'ai l'impression que rien permettait de croire à ce que ça puisse réellement exister. Mmh. Il y a eu beaucoup de vents contraires, de gens voilà qui essayent de donner des conseils pour surtout pas faire. Bon, voilà. De temps en temps, je suis un peu têtu. Mais... Et voilà, on l'a fait. Je suis tellement content parce que. Enfin, c'est auto, ça a été auto-financé, personne. Je vais aller voir quand même quelques personnes au début, en tâtonnant pour quand même essayer d'être accompagné économiquement et tout ça. Bon, je l'ai fait. Je suis tellement content de finalement de voilà d'être finalement seul aux commandes et de l'avoir fait comme je voulais. Et voilà. Maintenant, aujourd'hui, je suis voilà, c'est un vrai. Vraiment, je sens que les gens l'aiment pour ce qu'il est. Il n'y a pas eu de numéro zéro avec des analyses. C'est vraiment que de l'intuitif. Voilà.
D'accord. Et tu l'as quand même fait évoluer sur quelque chose. Enfin, dans le monde, c'est un objet physique, mais dans le monde physique, tu as créé un restaurant. Enfin, t'as créé Holiday Boileau, donc une marque de vêtements. Ouais. C'est quoi la vision à terme? C'est que tu veux en faire. C'est quoi ta vision?
En fait, déjà, il y avait parce que tous les sujets. Parce qu'en fait, je pense que peut-être dans un premier temps. Je suis rentré dans l'image, mais je crois qu'il y aurait eu plein de sujets qui me plaisaient. Ça m'a permis de, enfin, j'aurais pu me projeter sur plein d'autres métiers que ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie d'essayer aussi de raconter une histoire plus complète. Et c'est vrai que ce que j'aime faire fondamentalement, c'est pas forcément ce que ne se contente absolument pas à la mode. Donc ça, le Holiday m'a permis aussi de considérer quelque chose de considérer le lifestyle en général. Et voilà, après j'ai fait le café. Le café est lié à deux sujets qui se sont croisés. L'idée que Holiday devait être aussi un lieu de vie. Il devait être en 3D et il n'y a rien de mieux qu'un café pour représenter le magazine et après ça s'est croisé avec cette idée de réhabilitation de quartier, donc je suis parti à côté de chez moi dans un quartier assez incongru, assez abstrait, puisque c'est quasiment la porte de Saint-Cloud, donc pas du tout un quartier à la base censé être très sexy. Voilà, ça encore une autre fois, ça c'est vrai que ça m'a bien
bien mis des freins.
Ouais. Ouais, bien refroidi sur le sujet, ce qui était après, je me suis aperçu aussi que c'est pas que je m'attendais que ce soit facile, mais c'est vrai que déjà la restauration, je pensais pas à quel point ça allait être un vrai sujet. Je pense quand même, à un moment donné, ça a été un de mes dossiers les plus lourds dans ce que je faisais sur la logistique, sur plein de choses. Ça s'est mis en place, ça se met en place, et c'est passionnant, je regrette, mais vraiment pas, quoi. Et après, j'ai rencontré Gauthier Borsarello, qui postait un certain, postait régulièrement des trucs sur le holiday, puis une balade à l'atelier, on a fait une connexion, et puis lui, il avait un showroom déjà, je sais plus, dans le 11e, un truc comme ça. Et il me dit, oui, je suis souvent dans le café, parce que j'habite dans le quartier. Je dis, bon, bah, faut absolument qu'on trouve quelque chose dans le quartier. Et puis on a trouvé un lieu qui devait à la base être tout petit, puis finalement c'était un énorme lieu. Et puis on s'est dit, bon, bah, t'as ton showroom, et puis tu mets sur. À l'époque, j'avais fait en lançant le magazine, j'avais quand même fait une sorte de un site avec de la vente en ligne, mais il y avait un sweat, un t-shirt, une bougie en céramique, voilà, mm-hmm. trois trucs pour faire du lifestyle et pour vendre le magazine. Et en fait, ça marchait plutôt bien. Alors du coup, mais bon, j'ai dit, bah, Gauthier, voilà, faisons ça ensemble, développons un peu cette marque. Et voilà, finalement, on a trouvé une boutique qui est très belle. Et puis après, voilà, on développe le quartier. C'est aussi très agréable.
Ouais, c'est très, très amusant. Mmh. Et la vision, c'est quoi? C'est d'en faire demain des hôtels, de faire un parc d'attractions?
Non. Voilà, ce que j'aime faire, c'est quand même travailler sur une forme de. Je suis pas dingue de révolution. J'aime l'évolution, j'aime l'amélioration, j'aime la restauration, j'aime l'harmonie, j'aime le beau. Tout un tas de termes qui sont pas forcément qui vont pas forcément avec notre époque, mais je pense qu'on va en avoir besoin énormément. Il y a aussi cet aspect village qui me tient énormément à cœur. J'ai l'impression que plus on est global, plus on est mondial, plus on a besoin d'avoir une vie de quartier, de savoir. De pas perdre la connexion humaine. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que en termes de typologie, en termes de format, il n'y a pas mieux que le village. Donc la reconstitution du village, je la trouve assez fabuleuse. Et là, avec ce qu'on est en train de faire, déjà, c'est assez fabuleux. C'est bête, mais ça recrée du lien avec ceux qui viennent d'arriver et les gens qui sont du quartier. D'un seul coup, il y a une sorte de fil rouge qui se met en place et qui est voilà, je pense que c'est important. Et puis voilà, il y a aussi cet aspect aussi économique, aussi consommation qui est quand même dans nos métiers aujourd'hui, rétrospectivement, c'est toujours aussi ce que je dis, c'est un peu étonnant, mais enfin, je suis un zéro consommateur, c'est-à-dire que je n'ai besoin de rien, enfin, je n'ai besoin que de choses très, j'achète quelque chose qui peut-être a un prix, et après, là, je parlais l'autre jour de mes chaussures qui sont pas passionnantes, mais peut-être qu'elles m'ont coûté cher il y a 15 ans. Mais entre-temps, puis après, j'ai pas vraiment acheté de chaussures. Donc, c'est bien aussi de pas avoir tout sur le prisme de la consommation. Il y a ce redonner un peu de consistance un peu autour des choses, des gens, des relations, de la consommation. Un lien. Tout est lié. Après, quand j'évoque un lien dans une société, dans une boîte, dans une maison, ça existe aussi à l'échelle beaucoup plus grande. Tout est tellement lié, tout ce qu'on fait est lié, donc il faut essayer de donner un sens un peu à tout ça.
Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont dans cette approche-là, que tu trouves intéressante?
De c'est-à-dire
d'être dans ce temps long, dans cette non, ma question était très très bête.
Est-ce qu'il y a
des gens que, c'est difficile de dire ça, mais est-ce qu'il y a d'autres initiatives que tu trouves intéressantes et qui s'inscrivent à contre-courant peut-être de notre monde actuel où on veut toujours plus, où ça va toujours plus vite et il y a toujours plus d'images, etc., etc. Et qui, d'après toi, vont dans le bon sens, en fait. Parce que c'est, cette espèce de contre-pied, c'est la vague d'après, en fait. C'est de revenir au...
Ouais, mais je sais pas, réellement, je sais pas tellement techniquement si... alors là, c'est l'aspect ou lucide ou un peu sombre des choses, mais ça rejoint juste ce que je viens de dire avant, mais sur le fait que tout est lié. Si on tire à ce point-là sur toutes les cordes qui existent aujourd'hui, le futur, il est redoutablement noir. Donc oui, il y a d'autres secteurs qui m'intéressent, mais qui sont liés. Est-ce qu'on a besoin de la question des chaussures, c'est pareil, c'est est-ce qu'on a besoin de s'acheter 12 pulls en cachemire à 29 euros? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'on a besoin de consommer du poisson tous les jours? Est-ce qu'on a besoin de consommer de la viande tous les jours quand on voit derrière ce que ça fait comme ravage? Vraiment, on a l'impression d'être aujourd'hui d'être des criquets qui rasent tout. Donc c'est vrai que c'est étonnant que dans notre industrie, personne ne veuille affronter ce sujet de vraiment. Donc voilà, c'est une fuite en avant permanente et voilà. Alors après, c'est la contradiction de ce que de mon métier, de mes positions personnelles.
C'est ça qui est terrible. C'est une question que je pose souvent aussi à mes invités. Dans un monde où tout part à volo, on sait qu'on va droit dans le mur avec notre planète, on est quand même, nous, dans une industrie, on a une responsabilité de... Enfin, en tout cas, on aide... Alors toi, via ton métier, tu aides à vendre plus. Moi, je suis designer, je fais partie du système. Et donc, on fait partie d'un système qui va droit dans le mur. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Et comment tu te positionnes? Et comment on peut changer les choses à notre niveau?
Ben, à notre niveau, c'est compliqué. Je pense que c'est personnellement autour de moi. J'essaie toujours de pousser plus la qualité que la quantité. Et c'est ce que je fais à travers cette histoire de Village Boileau. C'est ce que je fais avec Holiday Boileau.
C'est ta pierre à l'édifice.
Ouais. C'est ce que je fais avec mes enfants. Sans vouloir lancer des dogmes ou des choses comme ça, je pense que c'est très compliqué de... Enfin, par exemple, je suis devenu avec le temps... idéalement, j'aimerais être vegan, mais aujourd'hui, je suis plutôt... Et c'est pas une mode, ça peut pas être une mode aujourd'hui. Enfin, c'est pas possible. On regarde un peu tout ce que, voilà, il y a quelques, avant, j'étais pas forcément en alerte et c'est vrai qu'aujourd'hui, même les réseaux sociaux, ça aide aussi beaucoup à voir les choses. Ça m'a, enfin, tout ce que j'ai pu aussi, même, voir ne serait-ce que sur Instagram, c'est des vecteurs de communication qui n'existaient pas. Enfin, voilà. Enfin, la condition animale aujourd'hui, peut-être qu'il y a encore 10 ans, c'était ou 5 ans, c'était pas, tu pouvais ne pas forcément l'avoir. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus visible. Donc voilà, c'est aussi ça qui m'a fait changer les choses. Je pense pas que je reviendrai en arrière sur ces sujets-là. Quoi. Ça va avec l'écologie, ça va avec, plein d'autres choses.
Comment tu... Parce que tu es sur plein de sujets différents et très différents finalement avec Holiday Boileau et le café Holiday. Ça ressemble à quoi tes journées? Comment tu structures tes journées pour arriver à tout faire bien, quoi? Parce que tu as beaucoup de sujets très différents.
Oui, alors en plus le sujet c'est que... C'est, enfin, c'est prétentieux ce que je veux dire, mais alors que j'y arrive ou pas, je déteste être approximatif. Donc c'est vrai que ça j'y arrive parce que je pense que je suis très concentré. J'y arrive. J'essaie d'y arriver parce que j'ai un horizon et je pense que j'ai un horizon depuis, je me suis mis un horizon sur une projection sur du long terme sur ce que je veux faire, ce que je veux faire de ma vie, ce que je veux. Il y a plein de choses encore qui manquent, mais en règle générale voilà, j'aime effectivement avoir une vision pour les choses. Je sais où je veux aller. Alors après, les moyens, finalement, voilà.
Tu l'as écrite, ça, cette vision à long terme, c'est quoi, comment ça se matérialise? C'est-à-dire, moi, Franck Durand, à la fin de ma vie, ça doit être ça. C'est ça? C'est un peu ça, quoi.
Ouais, ouais. D'accord. Bah, non, mais effectivement, d'essayer de faire les choses avec des convictions, mais pas aller de proposer quelque chose qui n'est peut-être pas forcément évident, mais y aller quand même. Tout ce qu'on fait par exemple sur le village Boileau, le fait d'avoir mis cette boutique Holiday Boileau qui n'existait pas il y a un an et demi, mettre une très belle boutique dans une rue qui n'est absolument pas passante, dans un quartier qui n'est absolument pas sexy, oui, c'est ça va à contre-courant, mais en même temps c'est, il y a une vraie conviction et a priori, alors c'est encore trop tôt pour le dire, mais on verra ça dans 20 ans, mais pour l'instant ça fonctionne et les gens voilà, enfin il y a une tonne de bon, bref, ça j'aime pas la facilité non plus, mais si c'est bien fait, peut-être que ça peut marcher aussi, donc
Et c'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui te pousse à faire tout ça?
Ben ça, je sais pas, parce que je pense que c'est très lié à la famille. Je pense que c'est très lié à la famille. Je pense que, mais c'est pour ça que quand je disais que j'aime pas travailler. En fait, j'adore travailler. Je vois, même je dois être addict à ça, parce que voilà, mais je suis pas ambitieux du tout, mais j'ai des vraies ambitions quand même sur le, une sorte d'essayer de quand même de proposer l'ambition elle est quand même d'essayer de proposer quelque chose de meilleure qualité en général, de plus beau en général, de plus harmonieux en général, d'essayer de faire quelque chose de beau autour de soi. Voilà, C'est ça qui me motive.
Si tu avais 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais?
Ouais, je pense que je travaillerais dans le... Dans le... Il y a un énorme sujet qui est passionnant, tellement on a fait du mal, mais c'est la planète. C'est, enfin, est-ce que c'est l'océan? Est-ce que c'est la désertification? Est-ce que c'est la condition animale? Est-ce que c'est, ce serait tout ça, quoi. Je pense qu'il y a, dépolluer ce qu'on a pollué, remettre la terre comme elle, enfin il y a plein de choses, enfin c'est un vecteur, un secteur
passionnant, ouais.
Passionnant, vital, hein,
vital, pense, ouais, ouais, ouais.
C'est très vital, je pense, c'est ouais.
Qu'est-ce que la mode peut faire pour ça aujourd'hui, à part tes initiatives à toi?
Je pense qu'il y a, c'est quand même lié beaucoup. Il y a quand même des groupes qui arrivent malgré tout à travailler un peu dessus, mais c'est probablement à trop petite échelle. Mais être concerné et puis informé et puis voilà, et puis cette boulimie de plus, c'est franchement, il y a un problème d'éducation, il y a presque un sujet moral dans tout ça. Enfin, on peut pas fermer les yeux, c'est compliqué, quoi. Aujourd'hui c'est devenu immoral.
Bon, on pourrait parler encore pendant très longtemps, mais je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de l'interview. Est-ce que tu voudrais rajouter des choses, ou peut-être, non, moi j'ai une question encore, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à un jeune homme qui voudrait entreprendre dans la mode, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Moi, une jeune femme d'ailleurs.
Ouais. Ouais, c'est une question compliquée. Je pense qu'il faut ça c'est compliqué, ça, comme question.
Ouais, c'est difficile.
Parce qu'on a envie de dire qu'effectivement, est-ce qu'il y a déjà une telle surcharge de propositions, il y a des enjeux économiques aujourd'hui qui sont tellement écrasants, et puis en même temps il y a des succès malgré tout qui sortent comme ça, je pense que c'est des convictions, je pense que c'est vraiment être après ce que je viens d'évoquer juste avant, je pense qu'il y a quand même on a quand même un code de conduite aujourd'hui à avoir aussi. Enfin, on n'est plus dans un monde déconnecté où on ne sait pas, où on sait tout. On peut avoir accès à tout. On sait tout ce que l'on fait, les répercussions que ça a. Qu'effectivement, on est. Tout est lié aujourd'hui, tout est lié. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais oui, on peut pas. Enfin, on peut faire des vêtements et super, quoi.
Ça peut pas s'arrêter là. Ouais.
C'est compliqué aujourd'hui.
Ouais, c'est
clair. Compliqué aujourd'hui.
Ouais.
Les répercussions de d'où c'est fait, comment c'est fait. À qui ça s'adresse. Pour ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même il y aurait quelque chose à faire sur une forme de. Je sais pas si c'est une histoire d'éducation et tout ça, mais. On n'a pas besoin de tout consommer autant surtout pour des choses qui durent une vie finalement voilà, bien réfléchir quand j'ai bien aimé, il y a eu quand même des gens qui ont évoqué ce Green Friday. Je pense que c'est bien aussi, il faut arrêter de consommer comme des bêtes comme ça, enfin voilà, il y a des vrais, voilà, c'est bien, ce serait bien ça, ça ce serait bien de de dépenser, je pense que c'est bien, mais mieux
de façon plus réfléchie, ouais.
Oui, pas comme ça, tout. Non.
Voilà. Et quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi, de la direction artistique, il n'y a pas de voie royale, j'aime dire, mais il y a quand même quelques choses à faire. Enfin, il y a quand même quelques chemins. Alors toi, tu n'as pas fait d'études, tu es tout de suite rentré chez un des meilleurs. T'as une chance incroyable, mais aujourd'hui, un jeune homme qui aurait envie de faire ça, tu lui conseilles de faire quoi ?
De faire les choses pour les bonnes raisons. C'est tellement important ce que j'ai évoqué sur... quand j'ai commencé, si j'avais un boulot, si j'étais... Enfin, voilà, si on m'avait pris, j'avais probablement oublié de demander combien j'allais gagner. Et pas que parce que j'avais un 300 mètres carrés machin. Je me souviens même, il y a des moments où techniquement quand j'étais vraiment petit, enfin quand j'avais 20 ans à Paris, c'est con hein, mais bon, déjà je bouffais très très mal, ça m'arrivait d'avoir je vais le dire un truc bête hein, mais ça m'arrivait d'avoir faim, voilà, donc ouais, voilà. Faire les choses pour les bonnes raisons, pas forcément
pour acheter sa dernière paire de
ouais,
baskets.
Non, mais voilà. Enfin,
ouais, je comprends,
il peut y avoir un aspect un peu euphorisant autour de la mode et tout ça, mais des clichés. Voilà, bon, c'est pas indispensable tout ça. Ouais. Voilà, c'est...
Très bien, cool. Ben, j'ai passé un super moment. Merci en tout cas pour ton temps. Et non, dernière question, comme ce que je pose toujours, voilà. C'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Alors, en fait, une personne que j'ai revue récemment, qui en fait est importante dans ma vie professionnelle et ma vie affective, familiale, parce qu'il a il m'a donné ma première campagne seule pour Jean-Paul Gaultier, c'était Lionel Vermeil. Et c'est lui aussi qui m'a présenté à la personne avec qui je vis maintenant depuis longtemps.
Ah ouais, donc c'est quelqu'un d'assez
voilà,
important
donc
pour toi.
Il est très important il a été très important dans ma vie. J'ai revu il y a quelques temps et c'est quelqu'un qui reste très très passionné, intéressant. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses avec lui. Il a un regard très aiguisé sur les choses.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Bonne chance pour
merci.
La suite et à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2€ par mois en allant sur patreon.com/entreprendre dans la mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.